Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te glorifions pour ce temps que tu nous accordes. Seigneur, nous prions pour que tu disposes nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions recevoir ta parole comme des vrais disciples. Merci de te manifester, Seigneur. Révèle-toi à nous par ta parole, Seigneur, et transforme-nous, Seigneur, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans Marc au chapitre 2. Marc au chapitre 2. Marc au chapitre 2, à partir du premier verset. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, emmenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. » Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alors, on nous dit que Jésus était dans une maison. Alors, on ne sait pas exactement à qui appartenait cette maison, mais ce détail n'est pas donné dans la Bible. On peut estimer que le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous attarder là-dessus. Mais il y a beaucoup d'informations dans ce texte que nous venons de lire. On nous dit que puisque Jésus était là, il y avait une grande foule. Au verset 2, il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait les contenir. Et Jésus annonçait la parole. Et dans ce décor que la Bible nous trace, on nous dit qu'il y avait des hommes qui ramènent leur ami paralytique. Et ces hommes voient la situation, ils voient le nombre de personnes. Alors ils sont inspirés de faire les choses autrement. Et on nous dit qu'il, verset 4, comme il ne pouvait l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Vous savez, lorsque j'ai médité ce passage il y a beaucoup d'interrogations qui viennent. On nous dit que ces hommes ont fait quoi? Ils ont ouvert le toit de la maison. Et une fois que le toit a été ouvert, ils rentrent par là. Alors, j'ai une question, comme j'aime à le faire, à nous poser. Qu'est-ce qui fait que ces hommes... Alors, on a dit qu'il y avait une foule. On a dit qu'ils ne pouvaient pas aborder Jésus puisqu'il y avait une foule dans la maison et que c'était difficile de passer. Mais j'aimerais qu'on voit ensemble ce qui a fait que ces gens... Puisque, en méditant, je me suis dit, mais quelle toupée, quel courage ces hommes ont de venir chez quelqu'un et de se permettre de passer par le toit. Et on nous dit que le toit n'était pas ouvert. Ils ont ouvert le toit. Donc on peut imaginer, on n'a pas tous les détails, qu'ils ont cassé des choses pour accéder à Jésus. Et la question que je nous pose, c'est, bien sûr, s'il y a quelqu'un de courageux pour répondre, il peut le faire. Qu'est-ce qui a amené ces gens-là à ouvrir le toit pour atteindre Jésus? Oui? J'entends pas bien. La foi, oui. L'assurance. Ils étaient convaincus qu'en passant par le toit, de toutes les façons, il n'y a pas le choix. Donc il faut atteindre Jésus par tous les moyens. Oui, donc on a dit la foi, l'assurance, la conviction. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Oui? L'amour pour leur ami, la détermination, oui.
Ils ont estimé que c'était le dernier recours pour leur ami.
Comment?
Le dernier recours pour leur ami, il n'y avait pas de solution.
Il n'y avait pas de solution. Ça se rapproche. Bien aimé, toutes les réponses qu'on donne ne sont pas mauvaises, elles sont correctes.
La détresse.
Donc la réponse de la sœur Julie se rapproche de ce qu'on attend. C'est qu'ils se sont dit, aujourd'hui, c'est l'occasion à ne pas... On est d'accord ou pas? Ils se sont dit, c'est aujourd'hui ou... Alors, advienne que... Bien-aimés, c'est ça le thème de notre exhortation aujourd'hui. L'occasion à ne pas manquer. Je prie pour que le Seigneur nous aide à avoir l'attitude qu'ont eu ces hommes. En se disant, puisque Jésus est là, c'est l'occasion à ne pas manquer. Vous savez, c'est curieux, hein, parce que j'ai regardé une vidéo que quelqu'un m'a envoyée, et c'était le président de la République qui saluait des joueurs de, je ne sais plus, de rugby, ou comme ça se fait souvent lors des finales, un match de finale, et lorsque le président arrive, il salue les joueurs, il arrive à la hauteur d'un joueur, le joueur salue le président, il lui dit, Monsieur le Président, est-ce que je peux vous demander d'accélérer ma demande de passeport? Bien aimé, c'est incongru. Ça fait sourire. Ça fait rire. Mais la pensée qui m'est venue, évidemment par rapport au partage de ce matin, mais cet homme s'est dit quoi? Il s'est dit, attends, le président est là. Moi, le président, je ne le vois pas tous les jours. Le président, je ne le rencontre pas. Là, il vient à nous. Donc, moi, c'est l'occasion pour moi de profiter, de présenter ma demande. Dire, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez faire quelque chose au niveau de la préfecture pour accélérer les choses? Et ces hommes se sont dit, c'est l'occasion à ne pas manquer. Et puisque c'est l'occasion à ne pas manquer, premièrement, on n'abandonne pas. C'est là qu'on rejoint tout ce qu'on a dit. Ils étaient déterminés puisqu'ils se sont dit, quoi qu'il arrive, nous, il faut qu'on puisse atteindre le Seigneur. Mais comment on va faire? Est-ce qu'on va sortir les gens pour dire que notre cas est plus sérieux que le cas des autres? Non! Puisque chacun a son problème. Vous savez, devant le Seigneur, chaque humain a un problème. Et ne dites pas à quelqu'un que ton problème est moins grave que celui de l'autre. Ah, pas du tout. Puisque ce qui peut paraître moins important pour toi, pour l'autre, ça ne l'est pas forcément. Donc chacun a son problème. Et eux, ils se sont dit, puisque c'est l'occasion à ne pas manquer, alors on va casser le toit, on va passer par le toit pour atteindre le Seigneur. Et bien aimé, j'ai été interpellé par l'attitude de ces hommes qui ont abordé le Seigneur de cette façon-là. En se disant, ce rendez-vous avec Dieu, c'est maintenant ou jamais. Il n'y en aura pas d'autre. L'occasion que j'ai aujourd'hui, je ne l'aurai pas toujours. C'est ça, bien-aimé, qui fait que quand un M. Langla se retrouve devant le préfet ou le maire de sa ville, bah, il introduit, « Monsieur le maire, j'ai une demande de logement, j'ai telle doléance. » Puisqu'il sait que le maire, même s'il peut être accessible, il ne le sera peut-être pas avant 3 mois, 4 mois. Alors quand tu as l'occasion, bah, tu profites sur quand tu as l'opportunité, tu profites sur l'occasion. Et je pense qu'au-delà de tout ce qu'on a cité, la foi, la détermination, la conviction qu'ils avaient que de toutes les façons, si on arrive à atteindre le Seigneur, notre ami, on a parlé de l'amour aussi. Mais plus que tout ça, c'est se dire, Jésus, on ne va pas le revoir demain. Alors puisqu'il est là, on va vers lui. Et c'est ça l'exhortation, bien-aimée, de ce matin. Ne manque pas l'occasion de venir au Seigneur. Ne manque pas l'occasion de recevoir de lui ce qu'il a à t'apporter. Vous savez, on peut parlementer sur ce verset. Il y avait une foule. Et bien aimé, nous savons que la foule, c'est ce qui décourage beaucoup. La foule, c'est ce qui... Vous savez, lorsque tu vas faire des démarches à la CAF ou peu importe, parfois tu arrives ou chez le médecin, souvent c'est entre 10h et 11h peut-être. Non, c'est souvent tôt le matin chez le médecin, sans rendez-vous, souvent, c'est 8h, 7h, de 7h à 8h. Ou alors le soir. Vous savez, quand tu arrives et que tu vois une foule de 40 personnes qui attendent, souvent, on rebrousse chemin. On se dit, ben, écoute, je rentre, je reviendrai plus tard. Et ces hommes-là ne se sont pas dit ça. En se disant, bon, on va attendre Jésus lorsqu'il va sortir de la maison pour pouvoir l'aborder. Non, ils n'ont pas abandonné. Ils se sont dit, mais comment on va faire pour l'atteindre? Et c'est ça l'exhortation, bien-aimé. Nous allons voir des exemples de personnes qui n'ont pas manqué l'occasion de s'approcher du Seigneur et être touché par lui. C'est ça le but de notre partage ce matin. Réaliser que quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est un rendez-vous qui est plus grand que celui de rencontrer le président de la République. C'est plus grand que cela. Alors tu te prépares. En conséquence, nous lisons toujours dans Marc au chapitre 5. Marc 5. Marc 5, à partir du verset 25. Or, il y avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « qui a touché mes vêtements ? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis qui m'a touché ? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Voilà, bien-aimé, l'histoire de cette femme. On nous dit qu'elle souffrait depuis 12 ans. Et non seulement elle a souffert si longtemps, mais elle a fait ce qu'il fallait pour aller mieux, pour guérir. Vous savez, bien aimé, c'est une chose de souffrir. C'est déjà beaucoup. Mais de faire ce qu'il faut pour aller bien alors qu'on souffre et que non seulement la situation ne s'améliore pas, mais s'empire, c'est encore plus difficile à accepter. Puisqu'on a fait les démarches qu'il faut. Et on nous dit que cette femme, un jour, entend parler de Jésus. Alors elle se dit, je vais aller le voir. Puisque je suis convaincu que si je le touche, je touche ses vêtements, je serai guéri. Bien-aimé, l'occasion à ne pas manquer. Vous savez, l'état de cette femme, c'était lequel ? C'est qu'une femme qui souffrait de perte de sang était impure, était interdite d'être en contact avec les autres humains. Elle devait vivre reclue, elle devait vivre dans un endroit sans aucun contact puisqu'elle était impure. Et donc une fois qu'elle entrait en contact avec les autres, elle rendait les autres impurs. Bien aimé, vous voyez les obstacles que nous citons, comme pour le premier exemple de la foule, de manque de place, le côté exigu, la promiscuité de la maison qui fait qu'il n'y avait pas de solution. Et là, cette femme, elle se retrouve dans le même cas. Elle est impure, donc en quelque sorte, elle doit rester chez elle. Mais malgré ça, elle fait des démarches auprès des médecins. Et ça ne va pas mieux. Et là, elle entend parler de Jésus. Elle se dit, si je puis toucher son vêtement, je serai guérie. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va au milieu de la foule. Connaissant son état, mais bien aimé, la question que je nous repose encore, qu'est-ce qui fait que cette femme ait ce courage-là d'aller vers Jésus ? C'est parce qu'elle s'est dit, c'est l'occasion où j'ai rencontré des médecins, j'ai rencontré des spécialistes. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Et là, l'occasion en or se présente. Elle s'est dit, peu importe ce que les gens vont penser de moi, ce qui importe pour moi, c'est que ma situation change. Bien-aimé, ne manque pas l'occasion de voir le Seigneur changer ta situation aujourd'hui. Ne te laisse pas distraire par celui qui est à gauche, par celui qui est à droite. La situation que tu vis, tu es seul à la vivre. Vous savez, en français, il y a ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. Mais bien aimé, vous savez, c'est de la théorie. C'est de la théorie. Se mettre à la place de l'autre, tu ne sais pas tout ce que l'autre... Tu peux supposer la souffrance que vit l'autre. Mais tu ne peux pas prendre la place de l'autre. Quand tu vas chez le médecin, tu expliques ton problème. Le médecin a appris à l'école, dans ses cours, que quand quelqu'un a tel symptôme, il souffre de ci, il souffre de ça. C'est théorique. Mais est-ce que toi, tu vis réellement lorsque tu as des insomnies, lorsque tu souffres, lorsque tu as des douleurs? Pour lui, ça reste théorique. Ça reste théorique. Et même s'il arrive que tu partages ton problème à celui qui a le même problème que toi, mais il ne vit pas forcément les choses de la même manière. Donc finalement, il y a une forme de solitude, tu es seul. Et là, cette femme s'est dit, puisque c'est l'occasion à ne pas manquer, alors je fais fi de ce qu'il y a autour de moi. Moi, mon objectif, c'est toucher ses vêtements. C'est tout. Le reste, on verra après. Et on nous dit, elle se disait en elle-même, si seulement je puis toucher son vêtement. Bien-aimé, l'exhortation du Seigneur aujourd'hui, ne manque pas l'occasion que le Seigneur te transforme aujourd'hui. Ne manque pas cette occasion. Ne sois pas distrait par la lumière, par le ventilateur qui souffle autour de toi, par le décor. Cette femme avait un seul objectif, c'était de ne pas laisser le Seigneur partir sans qu'elle ait été touchée par Dieu. Vous savez, ça nous fait penser à l'histoire de Jacob lorsque Jacob a combattu, non pas contre Dieu, lorsque Jacob a combattu avec Dieu. On nous dit qu'ils ont combattu combien de temps? 1 heure? 2 heures? Qui peut nous rappeler? Combien? C'était un piège. Ils ont combattu toute... Vous vous rendez compte, la nuit c'est fait pour dormir. La nuit est faite pour dormir. Normalement. Surtout qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas des véhicules ou des trains pour aller d'un endroit à un autre, puisque là, Jacob allait où? Il allait vers Ésaü pour faire la réconciliation. Donc il était en route. Donc vous vous rendez compte, la fatigue de la marche. Et là, il a ce combat avec l'ange de l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe? Jacob reçoit un coup au niveau de la hanche. Et Jacob dit à l'ange, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as pas béni. Jacob s'est dit, l'occasion que j'ai là d'être en interaction avec Dieu, je n'aurai pas toujours cette occasion-là. Je n'aurai pas toujours cette opportunité. Et c'est ça, bien-aimé, que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Jeune, moins jeune, plus âgé, l'occasion que tu as aujourd'hui de t'asseoir pour écouter la parole de Dieu, peut-être que tu ne l'auras pas demain. Vous savez, il y a un verset d'Ecclésiaste qui dit que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Donc la grâce que tu as d'écouter la parole aujourd'hui, il n'y a aucune garantie que demain tu aies encore cette grâce-là pour écouter la parole. Combien nous avons connu en bonne santé, bonne forme? Et en quelques instants, AVC, la personne n'est plus en mesure d'élaborer ce qu'on lui dit. Alors le Seigneur nous exhorte, bien-aimés. Est-ce que tu veux tirer bénéfice de ma présence? Et cette femme s'est dit non. Aujourd'hui, Seigneur, transforme ma vie. Transforme ma vie. Change-moi. Transforme-moi. Personne n'a rien vu. Mais Jésus a su que quelque chose s'est passé. Alors il pose la question, mais qui m'a touché? Mais les disciples disent, mais maître, regarde. Regarde toute cette foule qui t'entoure. Et tu demandes, mais comment on va savoir qui t'a touché? Jésus dit, non. Il y a quelqu'un ici qui est venu avec une foi telle que elle s'est dit ou il s'est dit que c'est sa dernière opportunité, sa dernière occasion. Et là, on nous dit, la femme, sachant ce qui s'était passé, toute tremblante, elle dit au Seigneur, « Seigneur, c'est moi. » Jésus lui dit, « Ma fille, va en paix, car ta foi... » C'est ça, bien-aimé. Ne passons pas à côté de la présence de Dieu. Nous lisons encore un autre exemple. Nous avons dit que nous allons voir quelques exemples. Toujours dans Marc. Marc 10. Marc 10. À partir du verset 46. Marc 10, à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse, que je te fasse ?»« Rabouni !» lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus en chemin. Amen. J'aime beaucoup ce texte, bien-aimé. On nous dit que Bartimée, fils de Timée, avait plusieurs problèmes. Lesquels? Quels étaient les problèmes de cet homme? On peut répondre. Hein? Quels étaient ses problèmes? C'est écrit, hein? Il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il avait comme problème, Bartimée? J'attends. Il était aveugle. Mendiant, oui, aussi. Ça fait beaucoup, hein. Il n'y a pas de piège, hein. Ça fait beaucoup. Il était mendiant, il était aveugle. Ça fait beaucoup. Mais, il pouvait entendre. Il pouvait écouter. Alors, il entend qu'il y a un mouvement. Vous savez, ce qu'on appelle, on ne va pas faire la biologie ou les sciences, la plasticité cérébrale. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un déficit au niveau corporel, la nature fait que les autres fonctions vont compenser ce manque. Quelqu'un qui est aveugle, par exemple, puisqu'il ne voit pas, alors son ouïe ou son odorat va être plus développé que quelqu'un lambda. C'est-à-dire qu'il peut sentir par des vibrations qu'en traversant, là, il y a peut-être une voiture qui arrive à 50 mètres. Alors qu'une personne qui a la vue ne va pas sentir s'il ne l'a pas vu. Surtout aujourd'hui où on a des AirPods, où, vous savez, quand tu mets tes casques, tu as l'impression que ça te coupe du monde. Tu n'entends pas le bruit, les petits bruits qui sont autour de toi. Et là, cet homme qui était aveugle sent qu'il y a un mouvement, mais un mouvement qui est inhabituel. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, j'aime beaucoup puisqu'on nous dit, il a entendu que c'était Jésus. Est-ce que quelqu'un lui a dit que c'est Jésus? Ce n'est pas écrit. Donc, dans le mouvement qu'il entend, ah, il se dit, ah là, c'est certainement Jésus qui passe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Seigneur, aie pitié de moi. Alors la foule vient lui dire, oh, 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 arrête de crier. Ici, on ne crie pas. Si Dieu veut te guérir, ben, il viendra vers toi, tu n'as pas à crier. Si Jésus veut te guérir, ben, il viendra vers toi. Mais bien aimé, je repose la question. Qu'est-ce qui a fait que Bartimée, on nous dit qu'on essaie de le faire taire, il crie plus fort. Qu'est-ce qui a fait cela, bien aimé? L'occasion à ne pas manquer. Il s'est dit là, si le monsieur part, ma situation reste la même. Alors il crie encore plus fort. Et là, Jésus, est-ce que quand il a crié avant, Jésus n'a pas entendu? Je pense que Jésus est Dieu, Jésus a entendu. On l'a même fait taire. Est-ce que Jésus n'a pas entendu que les gens sont venus pour faire taire Bartimée? Bien sûr que Jésus a entendu. Mais là, Bartimée crie encore plus fort. Et là, Jésus s'arrête. Il dit, faites-le venir. Vous voyez, les mêmes qui disaient, chut, silence, arrête de crier. Ce sont les mêmes qui disent quoi? Allez, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Bien-aimé, j'aime beaucoup cette histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire de l'humanité. L'homme est aveugle. L'homme est mendiant. C'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Hein. Tu penses être riche, mais en réalité, tu es pauvre. Tu penses connaître, mais en réalité, tu ne sais rien. C'est ça l'état de l'homme. Tu penses avoir le temps en te disant, mais je suis jeune, j'ai encore du temps. Mais en réalité, la jeunesse passe. Tu penses être intelligent en te disant, je sais à quel moment je vais me convertir. Mais bien aimé, tu ne sais pas de quoi le lendemain sera fait. Tu ne sais pas. Alors quand tu en as l'occasion, tourne-toi vers le Seigneur, bien-aimé. Vous savez, il y a un verset que j'aime beaucoup, hein, Proverbe 16 qui dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Je pense que tous dans la salle telle que nous sommes là, on a des projets au moins jusqu'en septembre. Il y en a qui ont déjà posé des vacances. Il y en a qui ont posé ceci ou cela. Tous là, on a des projets. Et la Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Nous avons tous vu hein, l'histoire du Titan, le petit sous-marin qui a été utilisé par des hommes fortunés. Vous vous rendez compte que les gens, 5 personnes, et si je ne me trompe pas, pour faire le voyage, pour aller voir le Titanic, les débris du Titanic, ils payent $200,000. Vous vous rendez compte? Et tous les quatre, puisqu'il y avait le fils d'un, donc un jeune de 20 ans, mais sinon tous les quatre, des millionnaires, des milliardaires même. Je pense que 200 000. C'est-à-dire que faire la descente, tu en as pour 1h30 hein, pour descendre jusque 200 000, je pense que rien que le montant, tu te dis, bon, j'achète une maison, du côté là d'Elbeuf, il y a des belles maisons à moins cher. Tu as encore suffisamment pour faire des travaux, pour même investir. Vous vous rendez compte que ça, c'est ce qu'ils payent, eux, par plaisir, dans un petit hublot pour descendre, voir le Titanic, et puis remonter. Mais malheureusement, les choses ne sont pas passées comme ça. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé, mais toujours est-il que ces personnes-là sont décédées, bien-aimées. Et quand on voit des choses, quand j'ai vu des choses comme ça, je me dis, mais Seigneur, est-ce que quelqu'un a parlé à ces gens-là de Jésus? Alors peut-être qu'il y avait peut-être des chrétiens là-dedans, je ne sais pas. Mais c'est ça ma question, me dire, mais quelle mort tragique. Quelle souffrance pour les proches, puisqu'on n'a même pas retrouvé des morceaux de corps, on n'a rien retrouvé. Hein. Alors quand on voit ça, on se dit, mais chaque moment que j'ai avec le Seigneur, eh ben, je dois le prendre au sérieux. Je dois être comme Bartimée. On l'a fait taire. Bien aimé, le diable va chercher à te faire taire pour te dire, tu es mauvais. Ne va pas à l'église. Regarde, tu as péché. Mais reste chez toi. Tu vas aller faire quoi à l'église? Reste chez toi. Tu t'es repenti, tu es encore tombé. Alors ça sert à quoi? Bien-aimé, n'écoute pas la voix du diable qui cherche à te faire taire. N'écoute pas la voix du diable qui cherche à te dire, mais tu n'es pas bon. Bien-aimé, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient... Il dit qu'il est venu, non pas pour les bien portants, mais pour les malades. Alors la voix du diable te dit, mais oui, mais regarde. Vous savez quand c'est comme ça, le diable te dit, regarde tel frère. Il a toujours le sourire. Hein? Sa vie coule. Il a tout ce qu'il faut. Mais vous savez, je disais à un bien-aimé, mais détrompe-toi. Ne pense pas que tous comme nous sommes ici, on vient à l'église. Même moi qui suis devant en train de parler, je n'ai pas de problème. Bien aimé, on a tous des combats. Parfois, on n'a pas envie de se lever le matin. Parfois, le dimanche, c'est le seul jour où tu peux... Et tu vois, 6 heures, tu dis, ah là là, il faut se lever. Bien aimé, c'est une réalité. Mais souvent, quand on arrive, on voit l'autre avec le sourire. Ah, comment tu vas? Bien aimé, parfois, ce n'est pas la réalité. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Gloire à Dieu, c'est très bien. Mais je dis, caler ta vie sur ce que tu vois, bien aimé, c'est ce que j'appelle réseaux sociaux. Vous savez, dans les réseaux sociaux, tout le monde est sur son 31. Moi, je vois souvent les jeunes, il est tout seul dans la rue, il s'arrête, il prend son smartphone, il est tout seul, parfois il fait les lèvres comme ça. Mais quand quelqu'un voit ça, il se dit, ah là là, elle est mignonne, ah là là, il est... Et bien aimé, ce n'est que l'apparence. Ce n'est que de l'apparence. Ce n'est pas la réalité. Je me rappelle d'un influenceur, je m'écarte un peu mais je reviens, qui expliquait, un Français qui est expatrié à Dubaï, il expliquait que finalement tout ce avec quoi il pose, les voitures, il dit mais tout ça c'est fake, c'est pas à moi. C'est de la location. Parce que quand les gens voient, ils disent oh, ah, il a réussi. Ah, lui, là, mais bien aimé, on ne sait pas ce que les gens vivent. Il y a des gens qu'on voit avec un grand sourire. Le lendemain, tu apprends qu'il a pris des médicaments pour se donner la mort. Et c'est là qu'on se dit, ah bon? Mais pourtant, c'est un collègue qui est toujours bien, qui est toujours... J'ai discuté avec une collaboratrice qui est souvent enjouée, qui est toujours de bonne humeur. Qui est... Alors, en entretien professionnel, je dis, mais... Je vois que tu as toujours la bonne humeur, c'est toi qui es moteur, qui est un élément moteur dans l'équipe. Elle me dit oui. Elle me dit, mais c'est de la façade. Je dis oui, je sais que c'est de la façade. Puisque je vois que c'est de la façade. Mais tous ceux qui sont autour doivent se dire certainement, mais ah ouais, mais Mathilde, elle est bien. Mais non. Elle ne va pas dire à tous ses collègues les problèmes qu'elle vit. Et c'est ça, bien-aimé. Alors le diable va te dire, mais regarde ta situation. Les autres, au moins, ils s'en sortent. Et toi, rien du tout. Bien-aimé, Bartimée n'a pas laissé cette voie l'atteindre. Plus on lui disait « tais-toi », plus il crie fort. Pourquoi ? Parce que c'était l'occasion à ne pas manquer. Nous finissons avec notre dernier exemple, Luc 19. Luc 19, verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Zachée s'est dit, ce monsieur ne passe pas toujours par ici. Alors comme c'est l'occasion, et que je suis de petite taille, qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter sur un arbre. Parce que ce n'est pas tous les jours. Nous continuons. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Bien-aimé, Zachée s'est dit que c'est l'occasion à ne pas manquer. Ne serait-ce que de voir cet homme qu'on appelle Jésus. Vous savez, il se disait beaucoup de choses sur Jésus. Les gens spéculaient autour du nom de Jésus. Certains disaient, mais c'est le Fils de Dieu. Il fait des prodiges, des miracles. D'autres disaient, des pharisiens, non, il n'est pas de Dieu, c'est un démon. Mais dans tous les cas, Jésus ne laissait pas les gens indifférents. Il ne laissait pas les gens indifférents. Vous vous rendez compte, on envoie des huissiers pour venir arrêter Jésus. Ils arrivent pour l'arrêter, Jésus prêche. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ils ont menotté Jésus et l'ont ramené, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai pas entendu? Ils sont rentrés bredouilles. Et le chef leur dit, mais vous êtes partis pour arrêter cet homme. Pourquoi vous revenez tout seul? Vous vous rendez compte, c'est comme si les policiers avaient un mandat d'amener. Ils viennent chez la personne et ils rentrent au commissariat, tous les deux tranquilles, entre eux, avec leurs lunettes de soleil. Le commissaire va dire, mais attendez, il y a un problème. Vous avez eu un ordre de mission pour aller chercher une personne et ramener la personne. Et vous savez ce que les huissiers disent quand ils reviennent? Qui se rappelle de ce que ces hommes-là disent? Qui se rappelle? Quand on leur pose la question, mais où est Jésus? Vous êtes partis pour l'arrêter. Qu'est-ce qu'ils y répondent? Qui se rappelle? Ah, ils disent, mais chef, on est parti pour arrêter cet homme, mais on est tombé dans le piège d'écouter ce que cet homme dit. Mais il dit, mais c'est curieux parce que on a entendu des hommes sages. On a entendu des hommes intelligents, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alors comment tu veux qu'on ramène cet homme-là, qu'on arrête un homme comme ça? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il se disait beaucoup de choses sur Jésus. Et là, Zachée, un homme riche, entend que Jésus va passer par là. Alors il s'est dit, je veux le voir, cet homme-là. Je veux voir à quoi il ressemble. Et je pense qu'il n'avait même pas soupçonné un petit peu que Jésus s'inviterait chez lui. Et lorsque Jésus arrive à sa hauteur, il lève les yeux. Il lui dit, Zachée, dépêche-toi, hâte-toi de descendre. Je vais loger chez toi aujourd'hui. Bien-aimé Zachée, je ne sais pas s'il est descendu par la voie normale de l'arbre ou alors il a sauté. Dans tous les cas, on nous dit qu'il s'est hâté de le faire et a reçu le Seigneur. Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois qu'il a reçu le Seigneur, il dit, Seigneur, puisque c'est l'occasion ou jamais, alors je décide de mettre ma vie en règle. Puisque cette occasion que tu me donnes, je ne l'aurai pas toujours. Vous savez, Zachée était un publicain, un collecteur d'impôts, et était considéré comme un voleur, oui, mais plus que cela, ce qu'on appelle les collabos, c'est-à-dire un traître, voilà, je cherchais le mot, un traître, puisqu'il travaillait avec les Romains. Vous savez, je pense que tous autant que nous sommes, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas, on n'a pas toujours de bonnes relations avec la personne qui représente l'autorité. Les jeunes, quand ils voient la police, tout de suite, ils sont dans la défiance, tout de suite, puisqu'ils se disent que lui, il vient pour me contrôler, pour me trouver en défaut. Quand tu as affaire à un officier de, comment ça s'appelle, la perception ou des impôts, bon, souvent ça tombe que les gens ne sont pas toujours cool, toujours sympas. Puisque toi tu viens avec tes a priori, mais lui aussi il fait son travail. Il sait qu'il n'est pas là pour se faire des copains ou des amis. Et Zachée, qui était percepteur, qui prenait les impôts des gens, ben, n'était pas aimé. Et voir que Jésus s'intéresse à lui, il s'est dit, mais ça c'est une occasion à ne pas manquer. Puisque Dieu me connaît, Jésus l'appelle par son nom. Il est surpris de cela. Et lorsque Jésus entre chez lui, Zachée dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je décide de restituer ce que j'ai pris. Bien-aimé Zachée, a réalisé que c'était le moment, l'occasion, à ne pas manquer pour mettre sa vie en règle. Bien-aimé, c'est l'occasion aujourd'hui de mettre ta vie en règle avec le Seigneur. Ne manque pas cette occasion. Vous savez, quand j'ai dit mettre sa vie en règle, je parle de la conversion si tu n'es pas converti. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu as peut-être entendu parler du Seigneur. Mais tu attends encore. Tu attends jusque quand? Tu te dis, bon, je vais voir. Vous savez, comme les enfants, quand ils regardent un match, ils ne sont pas pour l'un ou pour l'autre. Quand il y a une équipe qui marque un but, ah tiens, moi je suis pour telle équipe. Il attend de voir d'abord la tendance. Et bien aimé, souvent les humains, nous sommes comme ça. On attend de voir la tendance, et puis quand on voit, ah là, il est le plus fort, on dit, allez, moi je suis pour un tel. Et il y a des gens comme ça, ils attendent pour voir. Mais bien aimé, mettre sa vie en règle, c'est aussi, est-ce que tu as peut-être un problème de pardon dans ton cœur? Tu vis avec. Tu refuses de pardonner, mais tu vis avec. Vous savez, Jacques nous dit, ne nous bornons pas d'écouter la parole, mais mettons-la en pratique. Pourquoi? Pour ne pas se tromper par des faux raisonnements. Parfois, on vit avec le manque de pardon. Parfois, on vit avec la colère. En se disant, non, mais moi, ma colère, ma situation est légitime. puisque le préjudice que j'ai subi est trop grave. Bien-aimé, le Seigneur te dit aujourd'hui, ne manque pas l'occasion de pardonner. Ne laisse pas passer l'occasion. Zachée s'est dit, je ne laisse pas passer l'occasion. Peu importe ce que les gens diront. Et d'ailleurs, les gens disent, hein, il est allé loger chez un homme pécheur. Donc, bien-aimé, Jésus, en allant chez Zachée, il a pris le risque d'être conforté dans l'idée que c'est un faux. Parce que les faux s'assemblent entre eux. Donc, il est allé chez un mauvais, donc il est mauvais aussi. Et Zachée s'est dit, je ne manque pas cette occasion-là. Je veux être sérieux. Peut-être que mettre ta vie en règle aujourd'hui, bien-aimé, c'est commencer à respecter Dieu. Alors tu me diras, oui, mais qui c'est qui ne respecte pas Dieu? Mais bien-aimé, vous savez, de là où je suis là, je vois celui qui arrive à l'heure ou celui qui arrive en retard. C'est l'occasion de dire, mais Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je décide, comme Zachée, d'arriver à l'heure pour t'honorer. C'est ça, bien-aimé? Tu as beau sortir toutes les excuses, je peux te dire que pour aller au boulot, tu fais ce qu'il faut. Même quand on a connu les périodes de tous les jeudis grève, je peux vous dire que les gens étaient au boulot. Hein. Ah, les gens s'arrangeaient. Hein. Combine avec des collègues, ah, tu me récupères, on m'a riboudé, allez, tu me récupères. Tu te débrouilles. Puisqu'une journée de grève, c'est 80 euros. Hein. J'ai connu ceux qui faisaient grève tous les jeudis. Ah, Jean-Luc, tu m'écris, hein, tu me marques, hein, je fais grève. Hein. Mais deux fois, trois fois, quatre fois, je peux te dire que 80 fois 4 sur le salaire, à la fin du mois, tu vois bien la différence. Hein. Et maintenant, quand c'est comme ça, tiens, non, je ne fais pas grève, non. C'est ça la réalité, bien-aimé. Alors, dis comme Zachée aujourd'hui, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je décide d'être sérieux dans ma relation avec toi. Je décide de sortir de la légèreté. À l'écoute de ta parole, Seigneur, c'est l'occasion pour moi de me ressaisir. L'occasion à ne pas manquer. À partir d'aujourd'hui, peut-être que je sais que j'ai tendance à toujours vouloir contredire. Vous savez, il y en a, quoi qu'on lui dise, il est sur la défensive. Ah, t'as vu, le ciel est bleu? Non, il n'est pas bleu. Oui, bon, il est bleu, mais il y a des nuages, donc ce n'est pas tout à fait... Donc, il y en a, quoi qu'il arrive, il a toujours une nuance à faire. Bien-aimé, Zachée n'a pas parlementé avec Jésus. Il a dit, à partir d'aujourd'hui. Peut-être que tu as toujours tendance à répondre. Oui, mais. Donc, il y en a, ils ont toujours une réponse. Bien-aimé, c'est l'occasion aujourd'hui de dire, bon, je vais apprendre à écouter sans parler. Vous voyez le chant qu'on a pris ici? Je me tais, oh, j'apprendrai à écouter. À écouter qui? La voix du bon berger, du Seigneur. Et la Bible dit dans Job 33, 14 que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une. Mais si on ne sait pas entendre, si on ne sait que parler, mais bien aimé, on va passer à côté de ce que Dieu a à nous dire, parfois même par un enfant, parfois même par un païen. Vous savez que les païens, Dieu peut utiliser un païen pour te parler. Encore faut-il avoir l'humilité de dire, ah, là, c'est Dieu qui m'a parlé. Oh, ben c'est un païen, mais pff, un païen, qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Lui-même, il vole. Ah oui, mais c'est pas puisque lui, il vole, que toi, tu es autorisé à voler. Non, vous savez, il y a des païens qui, il fait le mal, toi, quand tu le fais, il te reprend. Ah ben, tu te mets en colère, toi. Ouais, mais toi aussi, tu... Mais non. dans ce cas-là, ah bah pardon, je demande pardon puisque je me suis mis en colère. On s'est dit, mais lui-même qui parle là, c'est... Non, Dieu te parle au travers de ça, de se dire, bah oui, effectivement, si lui, qui n'a pas le Seigneur, me reprend par rapport à la colère. Donc c'est le Seigneur qui me parle. Peut-être qu'aujourd'hui, bien-aimé, c'est l'occasion à ne pas manquer pour renoncer à la colère. Dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je refuse la colère. Je refuse l'amertume. Vous savez, il y a des gens, il a, comme je disais, un beau sourire, mais au fond, c'est la tristesse. En public, il est jovial, gay, il est gentil, il est tout ce qu'on veut. Mais une fois qu'il rentre chez lui, il ferme la porte, c'est des pleurs. Et l'exhortation d'aujourd'hui, ne manque pas l'occasion que le Seigneur te donne aujourd'hui pour te mettre en règle. Peut-être que c'est de t'humilier devant les humains, devant Dieu. Ne manque pas cette occasion. Vous savez, Zachée en montant sur l'arbre, vous imaginez. Alors, je ne peux pas prendre l'exemple, mais pour qu'on comprenne peut-être. Jésus qui passe quelque part, Bill Gates ou Donald Trump, qui monte sur un arbre pour voir qui il est. Mais les gens vont dire, mais lui, il a des moyens, il n'a qu'à l'inviter chez lui. Parce que c'est humiliant de se mettre dans une position comme ça. Mais oui, parce que Zachée avait affaire au Fils de Dieu, le seul qui peut transformer la vie d'un homme. Le seul qui peut donner une vie nouvelle et par-dessus tout, le seul qui donne la vie éternelle. Et c'est ce que Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Bien-aimé, ne manque pas l'occasion que le Seigneur te donne. Saisis l'occasion aujourd'hui d'entrer dans la vie que le Seigneur veut te donner. Au travers de tous ces exemples, nous allons prier que Dieu nous parle. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu te révèles à nous aujourd'hui encore, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas passer à côté de cette occasion que tu nous donnes, Seigneur, de te connaître, de prendre un nouvel engagement avec toi, de te suivre, Seigneur, de renoncer, Seigneur, à notre vie. Seigneur, nous avons vu l'exemple, Seigneur, de ces amis qui portent le paralytique, qui ont dû passer par le toit puisqu'ils étaient convaincus et certains qu'ils ne pouvaient pas passer à côté de cette opportunité. Seigneur, combien de fois nous passons à côté de ta présence, Seigneur. Nous avons vu, Seigneur, avec l'exemple, Seigneur, de cette femme qui souffrait de perte de sang, qui a pris au sérieux ton passage pour venir à ta rencontre, Seigneur. Seigneur, nous avons vu l'exemple de Bartimée, qui, malgré les voix de découragement, a crié plus fort parce que il savait que le salut ne vient que de toi. Et nous avons vu enfin l'exemple de Zachée qui nous montre, Seigneur, que cet homme a mis de côté sa fierté pour se mettre en règle avec toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à tirer profit et bénéfice de tout ce temps que nous passons dans ta présence. Nous prions pour qu'il y ait des conversions. Pour tous ceux qui hésitent, tous ceux qui sont encore indécis, Seigneur, ce matin, nous prions. Pour tous ceux qui se posent des questions, Seigneur, nous prions pour que ta parole soit la réponse, Seigneur. Qu'ils réalisent que, comme il est écrit dans Hébreux 3:15, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Comme il est écrit dans Apocalypse 3:20, tu dis que tu te tiens à la porte Et tu frappes, Seigneur. Nous voulons ouvrir, Seigneur, la porte de nos cœurs aujourd'hui. Nous ne voulons pas passer à côté de cette occasion. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, n'hésitons pas s'il y a des questions ou besoin d'éclairage sur ce qui a été dit. Nous avons la possibilité de nous voir pour discuter, bien-aimés. Mais le plus important, c'est que nous ne puissions pas passer à côté du Seigneur, à côté de Dieu, à côté de ce que Jésus veut faire dans nos vies, bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, pour des annonces, donc cet après-midi, à partir de 13h, là, dans une heure, pardon, il y a la répétition des enfants. Et en préparation de la fête de la jeunesse qui aura lieu le 7 juillet, c'est ça ? Le 8 juillet. Donc c'est une occasion à ne pas manquer pour les enfants. La Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Et chaque moment doit être pris au sérieux parce que le Seigneur rajoute « Car quand il sera grand, il ne s'en détournera pas ». Souvent, on néglige la première partie. Instruis l'enfant parce que instruire, ça demande des sacrifices. Ça demande de prendre du temps. Vous savez, moi, il y a les enseignants, moi je trouve que c'est admirable le travail qu'ils font. De prendre le temps avec 30 élèves, d'expliquer des choses, de redire des choses. Mais vous savez, un jour après 20 ans, le même enfant qu'elle avait dans sa classe de CM1 ou CM2, il revient ingénieur. Vous savez, c'est pour l'enseignant, on se dit, mais le temps que j'ai passé à investir, 25 ans après, le jeune revient en disant, « Madame, je suis médecin. » Je donne cet exemple pour qu'on comprenne, parce que peut-être le côté spirituel, on ne comprend pas. Puisque pour que cet enfant apprenne, les parents se lèvent tous les matins, ils vont le déposer à l'école, hiver, printemps, parfois c'est difficile, mais ils sont là, il y a des activités sportives à côté. Mais 30 ans après, celui qui a été sérieux, tire les bénéfices de cet investissement-là. Et bien aimé, accompagner les enfants dans l'investissement dans le Seigneur, c'est plus que les exemples que je viens de citer, puisque le médecin meurt un jour. Mais celui qui a Jésus, Jésus dit dans Jean 11, 25, que je suis la résurrection et la vie. Celui qui meurt, même s'il meurt, il vivra. C'est ça. Donc c'est un investissement, bien aimé. Et nous bénissons aussi tous les bien-aimés qui s'occupent des enfants, de les driver, excusez-moi le terme, de les conduire, de les encadrer pour glorifier le nom du Seigneur. C'est un investissement. Donc voilà pour l'annonce particulière. Sinon, on se retrouve tous les mardis ici à partir de 18h pour un temps d'études bibliques où nous parcourons la parole de Dieu et nous arrêtons sur des textes pour pouvoir expliquer la pensée du Seigneur et nous avons la possibilité de poser des questions et encore une fois, ce sont des occasions bien-aimées à ne pas manquer. On se dit, bon, les mardis, il y en a toujours. Mais vous savez, bien-aimés, il y a un texte dans Ecclésiaste 11, hein, qui dit que tu ne sais pas quelle prière sera exaucée quand tu pries. Vous savez, quand on prie, tu peux prier le matin, tu peux prier à 11h, à midi, à 15h, à 17h, mais si Dieu t'avait dit, ta prière qui sera efficace, c'est celle de 18h, je peux te dire que tu vas tout investir pour prier à 18h. Mais Ecclésiaste nous dit, attention, sache que Dieu te demande de prier. Maintenant, dans le fait de prier, tu ne sais pas si c'est la prière de 11h, de 10h, de midi, de 14h, ou même la prière d'une autre personne qui va faire que Dieu t'exauce. Tu ne sais pas. Donc, moralité, c'est quoi? Prends tous ces temps-là au sérieux. Ne te dis pas, bon, moi, dans le mois, j'irai un mardi ou deux mardis, mais peut-être que dans les deux mardis où tu n'iras pas, c'est là que Dieu a quelque chose de particulier pour toi. Tu ne le sais pas. Alors, je ne suis pas en train de dire, bon, viens tout le temps. Non, c'est comme le Saint-Esprit te conduira. Mais je te dis, bien aimé, chaque rendez-vous avec Dieu est une occasion à ne pas manquer. C'est ça, bien aimé. Bon, moi, je regarderai chez moi, sur ma tablette ou ma télé, bien aimé, ça, c'est la solution de facilité. Chez toi, tranquille, tu mets la télé. C'est bien, vaut mieux ça que rien. Mais Psaume 133 nous dit quoi? Oh, qu'il est doux et agréable. À qui il est agréable? Il est agréable à qui? Aux frères et aux sœurs. Mais plus que cela, il est agréable à Dieu de voir ses enfants ensemble. Pourquoi? Parce que c'est là que l'Éternel déverse la bénédiction. Et laquelle bénédiction? Comment? Non. La vie. La vie, c'est plus que tout, bien-aimé. Tu vas pouvoir avoir des voitures, des maisons, la beauté, mais toutes ces choses-là, si tu n'as pas la vie, à quoi ça sert? C'est ça, bien-aimé. Prenons ce temps-là au sérieux. Mettons dans notre agenda, bon, voilà, le programme avec le Seigneur. Donc nous nous retrouvons le mardi pour l'étude biblique. Nous nous retrouvons le mercredi pour un temps d'intercession. Et pendant ce temps, nous prions pour différents sujets. Et nous nous retrouvons le dimanche, comme aujourd'hui, dans nos différentes cellules, pour rendre notre culte au Seigneur. Nous allons prier pour ceux qui peuvent se lever, prier pour remercier le Seigneur pour sa grâce et nous aider à ne pas passer à côté des occasions que Dieu nous donne de pouvoir bénéficier de lui et de sa présence. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à réaliser combien nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous à réaliser combien, Seigneur, tu es précieux pour nous. Nous bénissons ton nom pour ta parole, Seigneur. Et nous prions pour qu'aujourd'hui, sois le jour de la décision, Seigneur, dans nos vies. Tu connais les réalités que nous avons dans nos cœurs. Seigneur, notre désir à nous, c'est de te plaire et de te suivre, Seigneur. Agis et manifeste-toi dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Nous te recommandons tout ce que nous allons partager. Nous prions pour le restant de la journée, toutes les répétitions et tous les cultes, notamment celui de Paris, nous prions, Seigneur, pour que tu te révèles encore à tous nos bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu.